Le Salon AMIF, le salon de l'Association des maires d'Île-de-France, les 28 et 29 mai 2024 à Paris Expo, Porte de Versailles, sur Radio Imo et Radio Territoria.
Eh bien les amis, bonjour, on a un tout petit peu de retard, c'est pas grave, il est 12h15 passé d'une petite minute, trois petites minutes exactement, on est ravis d'être avec vous. Une petite trentaine de minutes justement pour évoquer des sujets avec nos partenaires pour cette table ronde qu'on a conçue, notamment nos amis de Paris Senco, et je reçois sur le plateau la directrice générale adjointe Marion Appert. Bonjour Marion.
Bonjour.
On va parler des sujets justement qui nous intéressent, c'est comment faire vivre la ville et la transformer grâce à des actions collectives notamment, et de tout ce qui ressort à cette ville inclusive dont on rêve beaucoup. Et également sur le plateau, Céline Stéger.
Tout à fait,
Stéger.
Bonjour.
Je vais y arriver, hein.
Ouais.
J'essaie de ne pas dire Steiger, donc je dis Stéger. Responsable du laboratoire d'expérimentation urbaine, merci d'être avec nous.
Merci à vous.
Christophe Denisot qui est avec nous également, bonjour Christophe.
Oui, bonjour.
Directeur, alors délégué des relations institutionnelles pour EDF à la direction de l'action régionale Île-de-France, c'est bien ça?
Tout à fait.
Merci d'être avec nous. Et Nicolas Grigilio.
Tout à fait.
Merci d'être avec nous, vous êtes directeur opérationnel de Source Urbaine.
Exactement.
C'est canon comme nom, ça, Source Urbaine.
Moi, ça me plaît beaucoup.
Ouais. Il y a presque une philosophie dans le nom. Il y a un marqueteux là, qui a bossé sur le, sur
et,
le nom.
Et bah, écoutez, je pense que c'était vraiment la volonté des fondateurs de concilier aussi bien le sujet essentiel qui est la ressource en eau avec les enjeux urbains. Mmh. Et le nom, il est arrivé assez naturellement, mais je suis en effet content de voir que le nom arrive à emballer pas mal de gens.
Moi, je trouve ça
assez naturellement.
Je sais pas, il y a quelque chose de... Vous savez, moi, ça me fait penser, vous savez, quand ça me fait penser, ça me fait penser au Shangri-La, vous savez, c'est-à-dire que la source de jouvence, la source universelle. Vous savez, dans la mythologie, vous dites, c'est le Shangri-La, c'est le lieu où l'on va, où on reste jeune. Toute cette, voilà, j'aime beaucoup, j'ai connu des bravo pour le nom. On va parler de vous justement parce que vous êtes par l'illustration, par l'exemple, justement, des projets portés par Paris Senco. Dans un premier temps, on va avec vous, Marion, dresser un petit peu le portrait, on va dire le profil de Paris Senco dans ses différentes actions, notamment présentées, peut-être dans un premier temps, représenter ce que fait Paris Senco, son périmètre d'action notamment.
Oui, avec plaisir. Donc, Paris Senco, c'est une agence d'innovation qui se déploie à l'échelle métropolitaine, mais qui travaille aussi avec des acteurs d'ampleur nationale. On travaille autour de plusieurs activités, un métier d'incubation des startups qui est notre métier historique et qui nous amène à accompagner plus de 200 startups par an. Donc, c'est un très beau volume pour les aider à grandir, à se stabiliser, à trouver leur modèle de croissance. On travaille aussi avec d'autres entrepreneurs sur le segment innovation sociale ou des expérimentateurs dont va vous parler Céline qui testent des nouvelles approches, des nouvelles innovations in situ, in vivo pour voir si ça fonctionne. Et on travaille également avec des grands partenaires comme EDF pour les aider et les accompagner dans leur chemin de transition, leur responsabilité également sociétale et territoriale. Et donc, on a plus d'une centaine de grands partenaires à nos côtés. Et puis, last but not least, on a la chance de travailler avec la ville de Paris et la métropole du Grand Paris, qui sont très impliqués à nos côtés pour déployer une innovation durable, responsable. Donc voilà un peu le portrait de Paris Senco.
Est-ce qu'on peut dire finalement que cette organisation que vous dirigez permet de faire émerger en fait les projets des entreprises, vous les aider très concrètement? Vous êtes une ressource?
Oui, tout à fait. On a une approche vraiment opérationnelle. C'est vrai qu'on a une capacité à identifier les tendances, les signaux faibles, mais très rapidement, on va vouloir passer à l'action, outiller les acteurs que nous accompagnons, les aider dans leur développement. Et donc, pour cela, on développe des méthodes qui sont innovantes. On accompagne au plus près et puis on s'intéresse au terrain et au déploiement de ces projets dont on va pouvoir vous parler.
Alors justement, vous Céline, vous êtes en charge du laboratoire d'expérimentation urbaine, donc c'est vous qui finalement accompagnez ces entreprises dans ce type de registre. Et d'ailleurs, vous avez souhaité que l'illustration par l'exemple, on ait déjà des projets que vous portez. Dans un premier temps, décrivez-moi un peu le cadre de votre activité et ensuite on vous donnera la parole dans avec Source Urbaine, justement un projet que vous avez aidé à porter.
Paris Senco a un rôle de fabrique d'écosystèmes innovants dans les territoires. Et donc, en fait, nous, on a conçu un programme qui s'appelle Quartier métropolitain d'innovation. Donc, en partenariat avec la métropole du Grand Paris, on avait déjà précédemment œuvrer à l'échelle de Paris avec les quartiers d'innovation urbaine. L'objectif, en fait, c'est qu'on puisse faire une rencontre entre une collectivité, une commune, qui a un défi majeur à relever autour de la transition écologique, transition sociale, environnementale et autres. Et on fait une rencontre avec un porteur de projet, donc une solution innovante qui doit encore faire ses preuves. Donc ça peut être une start-up, ça peut être une association, ça peut être une grande entreprise qui, en fait, a cette bonne idée. Et donc, ensemble, on va vérifier si c'en est une.
En fait, vous la maturez quelque part.
Exactement.
Vous la maturez.
Exactement. C'est-à-dire que la solution vient avec son prototype. Et donc, on lui propose un terrain d'expérimentation avec la commune pour pouvoir vérifier si elle est
Mais il y a un champ d'expérimentation. Par exemple, ce n'est pas n'importe quel type de start-up. C'est toujours dans un domaine bien précis.
Alors,
ça reste dans le domaine de l'urbanité.
Alors, ça peut être la ville durable, mais on se rend compte qu'en fait, l'expérimentation, c'est un levier intéressant pour les communes qui vont vouloir aussi pouvoir s'intéresser à des sujets autour du tourisme. Donc, on a un partenariat aussi avec Atout France. On a aussi des expérimentations autour de l'alimentation. Donc, en fait, aujourd'hui, on se rend compte que c'est un bon moyen.
Ça ouvre très largement les entreprises qui se créent.
Exactement. Ça intéresse les entreprises qui se créent. Ça intéresse les collectivités dans une volonté de mieux acheter, de ne pas se tromper. Donc, en fait, là, en faisant un test, elle peut avoir une idée, avoir un outil d'aide à la décision pour un achat qui soit plus pertinent ensuite.
Une question, ça coûte quelque chose quand on utilise le service de Paris & Co ou c'est gratuit ?
Alors, quand on est une start-up comme Nicolas, pour l'accompagnement de 18 mois, c'est 1 000 euros totalité.
Ah, ouais.
Donc, c'est un programme qui est largement subventionné par la métropole du Grand Paris, la
Très
ville
largement.
De Paris et d'autres partenaires. Voilà.
Mais j'en connais qui prennent 1 000 euros par jour, donc là, 1 000 euros pour 18 mois, c'est...
Ça vaut le coup, hein, voilà. Surtout que c'est un accompagnement, c'est une mise en relation. Donc, entre la commune et le porteur de projet, c'est des actions de visibilité. Et puis, c'est surtout un accompagnement de Paris & Co, puisque Nicolas a la chance d'être suivi par un porteur de projet de chez Paris & Co, un chargé d'expérimentation, qui va l'aider dans son déploiement, trouver le bon terrain, construire son protocole d'expérimentation et puis évaluer, parce qu'en fait, on ne veut pas expérimenter pour expérimenter, on veut expérimenter pour avoir des résultats. Et donc, on est en charge de l'évaluation derrière.
On va revenir vers vous, si vous voulez bien, Nicolas. C'est intéressant, parce qu'on en avait parlé, il me semble qu'on en avait parlé au Bourget, sur l'axe de la responsabilité sociale des entreprises, la fameuse RSE. Mais on peut parler aussi, par analogie, des normes ESG, vous savez, les normes ESG, environnement, social et gouvernance, qui permettent en fait aujourd'hui d'être un critère, un ratio extra-financier sur lesquels, par exemple, dans les échanges, que ce soit dans les bourses, dans les financements, dans tout ce qui est private equity, par exemple, et pas que d'ailleurs, aussi avec des fonds publics, on voit bien que ces deux critères-là sont des ratios qui ont changé les méthodes de financement en fait. Parce que c'est intéressant parce que ça fait évoluer les financiers. Le financier derrière son Excel qui dit combien ça rapporte, combien ça coûte, etc., etc. Et là, on institue finalement deux ratios, deux critères qui sont des indicateurs sociétaux. Il y a presque une vision anthropologique finalement qui transforme cette finance en quelque chose que moi je trouve beaucoup plus vertueux, je vous le dis tout de suite. Et donc, on voit bien qu'à l'échelle locale, ça commence à avoir une incidence extrêmement forte. Donc je voudrais que, on va revenir vers vous sur le sujet, mais je voudrais d'abord vous donner la parole, Christophe, sur justement, vous représentez une institution, on est d'accord, hein, vous êtes délégué institutionnel, c'est quand même une énorme machine, Action Régionale Île-de-France, vous avez donc un rôle de représentation important et de porter un discours. En quoi pour vous, justement, l'accompagnement en tant qu'énergéticien aussi, en tant qu'accompagnateur, en tant que partenaire de Paris & Co, vous avez un rôle déterminant à jouer quand on sait la puissance de tir que vous avez, parce que quand on est une start-up, on rêve de bosser pour EDF comme client, avec un carnet de commandes rempli 10 ans à l'avance, par exemple. J'aimerais avoir votre vision justement des choses là-dessus, parce que ce qui est très intéressant dans votre position chez EDF, c'est que vous êtes très partenaire, très, 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 très encourageant. Et je trouve que c'est très satisfaisant de voir des institutions comme la vôtre porter des projets, aider des petites entreprises à émerger.
Oui, alors on est sur une entreprise qui est actrice du territoire. On est vraiment dans cette volonté de dialogue avec les parties prenantes, qu'elles soient de la maille de la rue, de la maille du quartier, voire de la région ou du pays. Sur une chaîne de valeur qui va du client particulier dans des quartiers à profil très diversifié, en remontant jusqu'à la production, des grosses centrales de production qui elles-mêmes ont des impacts sur leur territoire à une maille plus grande. J'ai bien aimé votre propos là sur l'impact, sur l'ESG, enfin, toute la partie évaluation du hors-bilan. On a une direction impact à EDF. Elle s'appelait direction développement durable et la décision a été prise de l'appeler désormais direction impact parce qu'on voit bien que tout ce qui est environnemental, sociétal, interne, externe crée l'empreinte de l'entreprise et crée un peu un référentiel des gènes de l'entreprise. EDF, c'est un service public à la base, c'est l'intérêt général, c'est tourné vers les citoyens. Et ça, dans un monde de concurrence, on avait du mal à le faire comprendre, on avait du mal à le mettre en avant. Et c'est l'objet de notre partenariat avec Paris Samco. C'est comment mieux valoriser tout ce qu'on fait qui bénéficie au territoire et aux clients en particulier, qui bénéficie à la rue, au quartier, mais aussi à l'élu et aux parties prenantes locales. Donc c'était l'enjeu avec Paris Samco d'être sur ce sujet plutôt de l'aval, plutôt de la consommation. On a un fonds Agir pour l'emploi du groupe EDF qui est doté par les salariés qui versent de façon bénévole de l'argent sur ce fonds, abondé deux fois par l'entreprise. Et grâce à ça, on finance des structures d'insertion par activité économique. Des projets qui donnent du travail à des gens plus qualifiés, qui leur donnent des possibilités de se réintégrer dans la vie active. Et longtemps, c'était mesuré en résultat comme capacité à créer de l'emploi ou de donner des formations à ces gens. Mais on s'est dit, mais il n'y a pas que ça, il n'y a pas que l'emploi. Il y a aussi les retombées en termes d'hygiène autour du projet, en termes d'amélioration de l'environnement, en termes de sécurité autour du projet, en termes d'alphabétisation. Donc des retombées très positives et on ne veut pas verser un chèque et s'en aller. Ce qu'on veut, c'est que le chèque que l'on verse soit une impulsion et on accompagne dans la durée. Et on veut le mesurer et on veut le valoriser et on veut dialoguer avec le territoire pour montrer le bénéfice que ça apporte. Et cette culture, on l'a sur toute la chaîne. C'est-à-dire qu'avec Paris Samco, on le traite vraiment sur la ville. Mais on a aussi un pilotage global.
Parce que pour vous, Paris Samco, c'est un allié objectif finalement qui accompagne ce mouvement de l'institution que vous représentez.
C'est un
outil. Paris Samco, c'est un outil.
Voilà.
On est d'accord.
C'est une capacité à créer des outils quand il n'y en a pas.
Enfin, c'est pas un outil, c'est une fabrication de boîtes à outils.
Voilà. Exactement. Je dirais qu'on est une boîte à ressources et une boîte à outils. Outils, nos partenaires, les porteurs de projets, notamment autour de cet enjeu d'impact. Et puis parfois, on va plus loin et on lance des actions collectives, dont un des objectifs, c'est effectivement d'apporter des outils autour de concepts qui sont forts pour faire bouger les lignes.
Alors, justement, on va pas se contenter justement d'avoir de très bonnes intentions. On va, grâce à vous, Nicolas, parler de quelque chose de concret. Parce que Nicolas, avec Surveyn, il illustre bien la mission que vous avez chez Paris Samco.
Alors oui, tout à fait, il va illustrer.
Il est représentant finalement de.
Il est représentant d'une part des activités.
Vous avez une longue responsabilité là, du coup. Hein.
Je pense que c'est un projet concret et on va l'écouter avec attention. Et au-delà des projets d'expérimentation, il y a également d'autres actions qui se déploient, comme les actions collectives autour de la low-tech et de l'intensité d'usage, mais qui reposent systématiquement sur des projets concrets comme ceux que porte Nicolas.
Bien sûr. Alors justement, on va parler source urbaine. Parlez-nous de vous.
Alors, source urbaine, c'est avant tout une solution de gestion des eaux pluviales. Oui. Et le principe, c'est d'essayer de proposer pour les collectivités, pour les espaces verts, pour les entreprises aussi, des nouveaux usages liés à l'eau pluviale. On se rend compte qu'aujourd'hui en France, on n'a pas besoin d'utiliser de l'eau potable pour arroser les plantes, tirer la chasse d'eau, nettoyer la chaussée, etc. L'eau pluviale est relativement propre, assez propre pour pouvoir y arriver assez facilement. Et donc, notre solution permet de se raccorder directement au réseau d'assainissement de la ville et de proposer de la végétalisation de nos espaces tout en supprimant les besoins d'arrosage qui elle est assurée en fait par les opérations naturelles qui sont la pluie hein, tout simplement. À partir du moment où on arrive à supprimer les opérations d'arrosage pour les collectivités, nous sommes non seulement dans cette logique économique de la ressource, du matériel, de l'humain, etc., mais nous sommes aussi dans cette vision des choses où la ville peut être rafraîchie naturellement par les plantes, par les végétaux.
Je trouve ça génial, c'est extraordinaire. Mais qui a eu cette idée ?
Alors là, c'est plusieurs cofondateurs qui ont cogité pendant plusieurs mois, qui l'ont mis en place. Ils ont travaillé avec des paysagistes, avec des agronomes.
En fait, vous récupérez les eaux. C'est un système qui récupère les eaux et qui permet finalement de réduire, voire même mettre à zéro l'arrosage urbain.
Exactement.
De réduire donc forcément les coûts, d'utiliser une ressource qui est là.
Exactement.
Et Dieu sait que depuis ce matin, on a de la ressource.
Depuis quelques mois, on en a un paquet, oui. Mais justement...
Non, mais je trouve ça génial. Est-ce que vous stockez ?
Et alors justement, ça passe par un stockage temporaire.
Génial, hein ?
Pour assurer cette autonomie qui peut aller jusqu'à l'ordre de plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Et le principe, c'est que le réseau d'assainissement, il est existant. Les gouttières, les caniveaux, les regards d'assainissement, etc. Mais l'objectif urbain, du développement urbain qui a eu lieu pendant plusieurs décennies, c'était de chasser la moindre goutte d'eau qu'il y avait dans les réseaux d'assainissement. On se rend compte aujourd'hui que si on arrive à la garder et à l'utiliser, entre guillemets, intelligemment, non seulement on fait l'économie de la maintenance de tout ce qui est réseau d'assainissement, station d'épuration, mais surtout, on évite la plus grosse source de pollution qu'il y a en France, c'est-à-dire que lorsque les réseaux sont saturés, toute l'eau pluviale qui se mélange aux eaux usées en allant dans les stations d'épuration fait déborder ces stations d'épuration, redirige toute la pollution dans les cours d'eau naturels, et c'est ça en réalité une des plus grosses sources de pollution en France. Donc en déconnectant et en faisant l'usage de cette ressource en ville, on arrive vraiment à être sur un système qui est complètement vertueux et qui est autonome et économique.
Vous savez que grâce à vous, j'ai appris quelque chose d'extraordinaire. C'est génial. Je ne savais pas du tout ça. Ça doit vachement parler aux élus.
Ah bah, ça leur parle énormément. Et c'est vrai que dès qu'on commence à se pencher sur tous les sujets d'amélioration du cadre de vie, on se rend compte que la végétation, c'est vraiment au cœur de toutes les conversations. Et à partir du moment où on arrive à leur proposer des solutions qui, pour leurs services techniques, améliorent leur quotidien, en général, ils sont assez vite emballés.
Alors, en quoi Parisenco, vous avez accompagné Nicolas, vous aussi Céline, en quoi vous avez trouvé des ressources qui vous permettent de vous accompagner, de vous sécuriser? Parce que statistiquement, on avait fait une statistique dans notre groupe média. On avait interrogé des jeunes entrepreneurs qui créaient leur boîte. Et...
Oui.
C'est intéressant ce qui ressort. Alors, en France, créer sa boîte, c'est un sacerdoce, hein, je vous le dis tout de suite. Il faut avoir une ambition chevillée au corps et se battre contre une forme technocratique qui est absolument incroyable. On est proche du film Brésil de Terry Gilliam. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Donc, grâce à vous, hein, parce que vous permettez aussi de faciliter. C'est aussi un appel que l'on voit. La première remontée que nous avons eue parmi ces générations, c'est la solitude. Le fait d'être seul et de ne pas trop savoir où je vais m'engager. Et en quoi Parisenco a été bon pour ressources urbaines?
Alors justement, tout à l'heure, on a parlé de boîte à outils et boîte à ressources, mais c'est aussi un écosystème. En fait, Parisenco, que ce soit par les chargés de projets qui nous ont accompagnés ou par le programme, en fait, on s'est retrouvé dans un écosystème avec d'autres porteurs de projets. On s'est retrouvé dans des cercles avec aussi bien des collectivités que des représentants de territoire. Et cette mixité, ou plutôt ce programme qui a été mis en place par Parisenco, nous a permis de nous... En fait, ça agit un peu comme un tremplin. Ce tremplin qui nous a directement mis en contact avec les bonnes personnes, qui savent parler des problématiques de leur propre territoire, qui savent utiliser les ressources de nos solutions et celles des autres porteurs de projets. Donc, au final, il y a quand même ce côté mixité de solutions et d'interlocuteurs qui fait que ce côté solitaire où les porteurs de projets peuvent, entre guillemets, être confrontés lorsqu'ils sont face à leur téléphone et doivent aller démarcher des collectivités ou des représentants de territoire, au final, cette solitude, elle a été assez vite brisée par l'écosystème dans lequel on a pu baigner très, très rapidement, dès le début de l'expérimentation, voire même avant, hein, puisque toute la phase de sélection fait qu'on a su être mis en relation très rapidement avec les QMI, donc tous les, entre guillemets, les bons quartiers métropolitains d'innovation, et avec les autres bons porteurs de projets qui au final sont complémentaires de la nôtre. Et donc c'est comme ça qu'on a réussi à se valider.
Vous êtes le meilleur ambassadeur de l'action.
Bah écoutez, on Céline, en est très content, donc vous avez aidé à porter je me permets de voilà, non, non, mais, d'en parler librement.
Vous pouvez vous permettre ce que vous voulez. En plus, votre solution est très intéressante. Et d'ailleurs, moi qui connais beaucoup de maires en Ile-de-France et en France, on n'hésitera pas aussi à évoquer que vous faites, et je m'y engage, hein, il n'y a pas de souci.
Avec grand plaisir, merci beaucoup.
On va faire en sorte que tous les maires de France, moi je les rencontre toutes les semaines, hein, je vais partout un peu en France, et je trouve ça excellent. Il y a quelque chose que j'aime bien, si je peux me permettre, Marion.
Allez.
C'est cette émulation qu'on a dans notre pays. Moi je suis très fier de ce pays, voilà, je vous le dis. Je suis très fier de ce pays. En ce moment, on prend un peu des gants blancs quand on parle de ça. J'ai une vraie fierté. Fierté d'appartenance à ce pays, parce que quand je vois des entrepreneurs, des dynamiques comme vous, bah je me dis qu'il y a beaucoup d'espoir dans notre pays, il y a beaucoup d'intelligence, il y a beaucoup de ressorts, et ça, il faut aussi savoir le mettre à l'honneur. Donc merci à Marion et à Céline de nous avoir, de vous avoir invité. Justement, Céline, ça, je voyais jubiler quand vous écoutiez Nicolas. Ça, là, vous vous dites, là, j'ai bien fait mon boulot quand même.
Oui. Non, mais c'est vrai que Nicolas, en plus, il est assez fort parce qu'on lui, il est sélectionné dans le cadre d'un appel à candidature. D'ailleurs, j'en profite pour dire qu'on est en plein appel à expérimenter en ce moment et on cherche les futurs expérimentateurs pour les villes d'Aubervilliers, de Fontenay-sous-Bois et d'Athis-Mons. Donc, vous avez jusqu'au 16 juin pour candidater. Et c'est vrai que Nicolas est assez malin parce que donc il est sélectionné dans le cadre de l'appel à candidature. On le met en relation avec la ville de Sceaux, qui a des problématiques de végétalisation, qui veut embarquer ses services aussi, parce que c'est ça aussi, les quartiers métropolitains, c'est de pouvoir aussi créer cet écosystème, en fait, avec un porteur de projet, avec les élus, mais aussi avec les services, de faire monter en compétence, en fait, les services sur ces questions d'innovation, en ayant quelque chose de tangible aussi à essayer. Et puis, il est malin aussi parce que, en fait, chaque commune bénéficie de 6 à 8 projet d'expérimentation sur son territoire, d'où les quartiers métropolitains d'innovation.
Ah oui, d'accord.
Ouais, c'est pas qu'une solution. Oui. On apporte vraiment un bloc de solutions sur une thématique, parce qu'on ne préjuge pas que source urbaine était la bonne solution pour ça, mais qu'il y en avait peut-être plusieurs. Et là, ce qui est malin, c'est qu'en fait, il y a une autre expérimentation qui avait été sélectionnée et ils se sont bien entendus. Ils ont vu qu'il y avait des complémentarités entre les solutions, donc ces petites natures, si je ne me trompe pas.
C'est ça.
Et en fait, ils ont fait une collaboration pour la ville de Sceaux. Donc, c'est aussi ça qui est intéressant. Et ils viennent de déployer la semaine dernière. Donc, c'est visible maintenant à Sceaux. Et donc, on a hâte de faire l'évaluation.
On le fera. On a un site internet
où
on peut avoir de... Ça s'appelle comment ?
Sourceurbaine.fr.
Voilà, www.sourceurbaine.fr. Notre ami Théo, qui est à la commande, vous ne le voyez pas, mais il est derrière, parce que de toute façon, s'il n'était pas là, on ne pourrait même pas vous parler, les amis. Je vais demander à Théo de mettre l'adresse de l'URL directement. Quand vous écoutez l'émission, vous cliquez sur le lien et vous arrivez directement sur votre site internet. On va mettre, bien sûr, pour faire plaisir à Marion, le site aussi de Paris Senco. Voilà, c'est la fête à Marion aujourd'hui.
Oui, la fête Marion.
Alors justement, je voudrais, Marion, qu'on revienne sur l'action collective portée par donc la Lautec depuis 3 ans et notamment le futur guide de conception urbaine. C'est un vrai mot. Expliquez-nous, parce que je trouve que c'est hyper intéressant et très pragmatique, en fait.
Avec plaisir. C'est vrai que c'est une démarche qui nous passionne depuis maintenant 3 ans. La jeunesse de ce projet, c'est GRDF qui vient toquer à notre porte et qui nous dit « Est-ce que vous avez vu, l'ADEME vient de lancer un appel à manifestation d'intérêt sur l'approche low-tech. Qu'est-ce que ça signifie? Est-ce qu'on explore? Est-ce qu'on peut explorer ensemble ?» Et donc, ni une ni deux, on a décidé d'explorer cette motion ensemble. La low-tech, c'est une approche de discernement technologique qui prône une ville plus sobre et qui va essayer de développer des projets urbains en utilisant beaucoup moins de ressources. Et donc, on s'est dit, il y a quelque chose à creuser. À l'époque, on parlait quand même beaucoup moins de sobriété, mais on sentait que c'était quand même quelque chose qu'il
fallait...
C'était quand ? Du coup, c'était il y a 3 ans.
3 ans. Ouais. C'est vrai qu'on parlait pas, on parlait très très peu de sobriété.
Très peu. On mettait pas encore de col roulé et on trouvait pas que c'était à la mode.
On n'avait pas la barbe, on mangeait pas des graines, on faisait pas de vélo.
Pour autant, il y avait déjà des enjeux de préservation des ressources et donc on est allé chercher différents partenaires et c'est ça que je tiens à souligner, c'est qu'il y a évidemment les entrepreneurs qui bougent et on s'en réjouit, mais il y a aussi les grandes entreprises qui s'engagent pour faire évoluer la fabrique de la EDF. Ville. J'ai EDF à côté de moi. Dans la dimension low-tech, autour de la table, donc il y a le GRDF que j'ai cité, mais également Grand Projet Aménagement, SNCF Immobilier, BNP Real Estate, Groupama Immobilier, Eiffage, l'AREP et l'ADEME évidemment. Et ensemble, on a d'abord exploré le concept, notamment en faisant des challenges au sein de chaque entreprise avec les collaborateurs pour se dire c'est quoi la low-tech. Et en fait, vous connaissez plein de solutions low-tech. On va un peu les remettre en valeur et se rendre compte qu'il y a plein de solutions que vous pouvez pousser dans vos projets urbains. Ensuite, on a pris des engagements collectifs au sein d'un manifeste pour une ville low-tech. Ensuite, on s'est dit qu'il fallait s'outiller. On en a déjà parlé, mais en fait, il faut favoriser les projets urbains avec des outils qui sont concrets. C'est pour ça qu'on lance un guide de conception urbaine low-tech qui sera dévoilé le 23 septembre lors d'un événement au pavillon de l'Arsenal. Absolument. Et ce guide...
Avec un scoop officiel de Radio Imo.
Exactement. Et ce guide, en fait, il propose des actions très concrètes avec des fiches méthodologiques autour des grandes questions
que tout le monde pourra utiliser.
Tout le monde pourra l'utiliser. Et vraiment, on l'a voulu comme un guide très accessible autour de 4 grands axes, qui est comment on compose avec le déjà-là, puisque 80% de notre bâti est déjà-là, en fait.
C'est très clair.
Donc, comment on compose avec les ressources humaines, les ressources naturelles qui sont déjà-là, plutôt que d'aller en extraire des nouvelles. Comment on dimensionne au plus juste avec une approche de sobriété, comment on conçoit pour durer et comment on lutte contre l'obsolescence programmée qui existe aussi dans le secteur urbain. Et enfin, comment on favorise des projets conviviaux et accessibles, parce que ce qui est aussi intéressant, c'est que dans cette approche de la ville sobre et de la ville low-tech, la notion de convivialité et de lien social est cruciale. C'est quelque chose qu'on ne met pas toujours en avant dans le domaine de l'urbain. Pourtant, c'est vraiment un socle qu'il faut explorer. Donc on a hâte de dévoiler ce très beau guide. En plus, il est illustré. Donc
justement, alors là, je réponds, vous me voyez répondre comme je le fais d'habitude, les amis. Là, je réponds à pas mal de messages qui sont donnés en direct, justement, sur comment les personnes perçoivent. Moi, je trouve ça extrêmement intéressant. Merci de vos réactions. Faites aussi des petits commentaires sur les réseaux sociaux. Lorsqu'on vous téléchargerez le podcast, ça nous permettra d'avoir aussi votre avis sur les sujets. On va faire un dernier road justement là-dessus avant de nous quitter. Christophe, on l'a bien vu, hein, les grandes entreprises aujourd'hui sont confrontées à ce que j'appellerais un dilemme. C'est celui de, je vais utiliser un terme un peu galvaudé, mais celui de la frugalité. Frugalité ne veut pas dire appauvrissement. Hein. C'est-à-dire que c'est presque le courant, vous savez, aux États-Unis qui est en train de se développer, qui s'appelle la décroissance. C'est de dire on ne peut pas avoir une croissance qui monte au ciel et qu'il faudra bien, et c'est un peu le sens de ce que vous disiez Marion, faire avec ce que nous avons aujourd'hui. Moi, ce que j'aime beaucoup dans les initiatives telles que Nicolas, c'est qu'il dit bah, écoutez, on a une ressource. Cette ressource, vous ne saviez pas l'utiliser, nous avons trouvé une solution pour l'utiliser. En plus, elle coûte zéro. Hein, même s'il faut quand même rémunérer votre action, bien évidemment, c'est toujours moins cher et toujours gagnant à 3 niveaux. C'est gagnant, un, parce que l'impact, ce que j'appelle l'impact investing, très à la mode en ce moment, a quand même une résonance très forte pour l'élu local. Et ça, c'est un enjeu important parce que l'élu local aujourd'hui est débordé par cette accélération. Le deuxième aspect, c'est l'usage. C'est l'usage qui est majeur. Et enfin, c'est justement l'exemplarité. Quand je dis l'exemplarité, on voit bien, Christophe, justement, grâce à vous, grâce aux entreprises, grâce aux grandes institutions, vous dépensez beaucoup d'argent, je le sais, pour favoriser ce développement. Pourquoi je ne vais pas dire que c'est un changement, mais je veux dire, c'est quoi le fond ? Le fond, c'est de dire véritablement, l'entreprise de l'entreprise passe par là, passe par une nouvelle vision anthropologique et urbaine. C'est assez large, mais voilà.
Non, mais c'est tout à fait le cœur du sujet de notre mission. Hein. Avant tout, faisons qu'on soit conscient de la valeur de l'énergie, de la valeur des choses. Et la première action, c'est consommer moins. Les orientations, c'est réduire les consommations d'énergie de 40% d'ici 2050. Donc on est vraiment sur cette volonté de responsabiliser chacun d'entre nous. On est tous au même bateau. Et on doit tous prendre conscience qu'on est acteur de nos consommations. Et ça, on le fait, bien entendu, d'abord pour nous, pour nos actifs industriels, pour nos bureaux, pour nos salariés. On les responsabilise, on partage. Il n'y a pas la vérité, parce que chaque territoire est vraiment très spécifique. Hein. On n'aura pas les mêmes actions en bord de mer, à la montagne, ou en ville ou en rural. Mais ça participe de ça, et on devient ambassadeur, et on va vers les clients, on va vers les parties prenantes, on va vers les entreprises, vers les collectivités locales. Pour les entreprises, on favorise des logiques de cluster où les déchets de certaines servent de matières premières pour d'autres. La chaleur d'un process industriel devient un moyen de chauffer un quartier de ville.
Une forme d'interopérabilité permanente.
Le système. Arriver à optimiser le local, optimiser le système. Et on commence par là. Et après, on décarbone. Et pour décarboner, on a un mix électrique qui est très décarboné en France. On est dans une logique d'inciter à sortir de l'énergie fossile, parce que celle-là, elle est très carbonée. Et donc, on gagne à la fois sur un climat qui s'améliore en passant à l'électricité décarbonée, et on gagne en indépendance énergétique. Donc, on responsabilise, on incite au développement économique aussi, parce qu'on est quand même sur Terre pour vivre, vivre bien, vivre heureux. Hein. Il faut que les territoires soient agréables à vivre, mais qu'on prenne plaisir aussi, à la culture, à des activités et des projets. J'aime beaucoup ce que Nicolas fait parce qu'on est dans le mariage de la nature et de la ville, on est dans l'humain, on est dans l'univers et ça c'est essentiel. La priorité c'est quand même l'humain. Et
vous allez même plus loin, hein, parce que je voudrais qu'on parle aussi, de dire trois mots, même si on a un temps qui est contraint, sur le fonds Action Pôle Emploi. Que vous avez, qui soutient des initiatives locales, qui sont très locales. Alors, local, j'aime bien le mot local, enfin, tous les mots ont du sens. Parce que c'est à l'échelle Iris hein, que ça se travaille. Hein. Ce n'est pas à l'échelle d'une politique générale, je suis très bien de faire de la politique générale, très bien. Mais sur le terrain, ça, il faut que ça fonctionne. Et chaque territoire, je suis bien placé pour le savoir, a des réalités différentes. Et donc, c'est une mission qui a été réalisée avec Paris Senco pour mesurer l'impact de ces initiatives locales sur leur territoire. Un mot là-dessus, Marion.
Alors, c'est vrai qu'on a tendance à regarder quel est l'impact environnemental d'un certain nombre de projets. Et donc, on dispose de méthodes qui sont très pointues pour le faire. Pour autant, et c'est une notion qu'on aime bien et qu'on défend avec l'ADEME, il y a plein de projets qui ont des co-bénéfices, donc qui vont avoir une valeur environnementale, mais également une valeur sociale. Une valeur voilà, parfois un peu diffuse, qu'on ne sait pas toujours mesurer. Et donc, avec Christophe, on se disait il y a des formidables projets qui sont soutenus par ce FAP, le Fonds Agir pour l'Emploi. On est capable, grosso modo, de dire quelle est leur valeur environnementale, mais on voudrait montrer tous les co-bénéfices qui sont apportés à l'échelle du territoire. Et pour cela, on va créer un outil. Et donc, on a créé cet outil avec EDF. On l'a testé, on l'a simplifié également, puisque l'enjeu, c'est également que les collaborateurs de Christophe puissent s'en emparer. Et donc, c'est inédit en France et ça marche plutôt bien. Enfin, je vais laisser Christophe me dire s'il est d'accord avec moi.
D'ailleurs, il y a un lieu, on peut en savoir plus, on peut consulter. Un site, il y a quoi ?
Oui, alors c'est sur le site du Fonds Agir pour l'Emploi du groupe EDF.
Très bien.
Avec un outil qui a été testé déjà sur 4 structures d'insertion en Île-de-France, qui est en cours de déploiement dans les autres régions françaises. Et encore une fois, la volonté de mettre les collègues acteurs et être responsables de l'outil. C'est-à-dire que quand on évalue une structure, on arrive à qualifier l'enjeu de la structure. Il y a des recycleries, il y a des structures éducatives, il y a des jardineries. Et on n'aura pas les mêmes approches. Donc il y a déjà une part d'intelligence du terrain. Et je crois beaucoup à l'intelligence du terrain pour s'adapter au local, au contexte local.
Bien sûr.
Donc l'outil, je dirais, c'est un soutien, une méthode générale avec toute la simplification qui permet de gagner du temps. Mais le local reste à la manœuvre. L'intelligence, elle est là. Et c'est lui qui prend en main l'outil et qui arrive très vite à faire des rapports types pour dialoguer avec les élus. L'idée, c'est bien ça, c'est montrer à l'élu que notre action EDF, c'est pas qu'un chèque.
Oui. Non, mais c'est intéressant parce que souvent, on a l'impression, on se dit, bon, les grandes entreprises, elles payent pour justifier de... Non, c'est pas le sens de l'engagement. Hein, c'est pas uniquement ça. Enfin, vous avez l'air et la chanson.
Ouais. Exactement.
Et peut-être pour expliquer à quoi ça ressemble, parce que c'est vrai que dès qu'on parle d'outils et de mesures d'impact, ça peut donner des sueurs froides. Là, c'est vraiment, on a travaillé en se disant l'important, la première étape, c'est de savoir ce qu'on veut mesurer et les moyens dont on dispose pour le faire, parce qu'en fait, faire une évaluation, ça peut prendre du temps. Et en fonction du projet, de sa typologie, de est-ce que c'est plutôt un projet à dimension environnementale, sociale, quel est le contexte, on a tout un questionnaire avec un ensemble de questions. On va sélectionner les questions qui sont pertinentes et on va savoir quels indicateurs on va chercher. Donc voilà, c'est un outil qu'on a voulu simple et que chacun peut s'approprier.
Voilà, il va bientôt être l'heure de nous quitter. Je vous propose un jeu pour terminer, vous êtes d'accord ? Vous êtes partant ?
Avec plaisir, moi j'aime bien
ce qu'on gagne. Ouais.
Bon, alors, 8 jours aux Bahamas.
Bien. Non, c'est pas assez...
C'est pas très sobre. Quand
ouais, même. C'est pas assez sobre.
Oui, mais non, low-tech. On y va à la rame. Alors, non, je caricature. Je vais vous proposer un jeu. Je vais vous demander chacun de dire un mot, un adjectif, très spontanément, qui illustre les propos que nous venons d'échanger. On va commencer par vous, Nicolas. Un mot, un adjectif, un seul.
Inspirant.
Inspirant.
Connectant.
Connectant.
Ouais, c'est pas un adjectif, c'est... Bon, connexion, si vous voulez préférer. Ouais.
Non, mais
connecté.
Connecté, voilà.
Connecté, pardon.
Connecté, très bien.
Ressourçant.
Voilà. Ressourçant.
Ressources.
Ouais, urbaines. Ok. Ouais. Ressourçant. Jouons au jeu. Ressourçant.
Humain.
Christophe.
Humain.
Alors.
Et vous ?
Centré sur l'humain. Moi, je fais la synthèse.
Ah, vous faites la synthèse.
Centré sur l'humain, développer des projets inspirants et connectés. Quelque chose qui finalement évoque quelque chose de ressourçant dans un seul but, de servir l'intérêt des uns et des autres, proche de son prochain, mais aussi de son lointain. Merci à tous.
Merci beaucoup.
Alors, oui, j'adore ce genre de jeu. Voilà, ça nous met une touche un peu holistique. Vous me connaissez, hein, les amis, vous savez que je le fais souvent. J'aime beaucoup ça parce que ça sanctionne, et bien souvent d'ailleurs, quand vous m'écrivez, vous écrivez souvent, tiens, tel mot vous a frappé, parce que ça sanctionne toujours les propos, et j'aime beaucoup de ça. Merci à Paris Senco, merci à Marion Appert, directrice générale adjointe.
Merci beaucoup.
Voilà, ça évolue de jour en jour, là. Merci à Marion, bon, on reste connecté forcément. Avec vous, j'ai aucun doute, je suis sûr qu'on sera sollicité, il n'y a pas de souci. On a beaucoup de plaisir à vous aider à rayonner et à vous donner une chambre d'écho. C'est notre but. Délégué aux relations institutionnelles en Ile-de-France, et Christophe Denisot, merci.
Merci.
Venu par le plateau, c'était un vrai plaisir. Nicolas Griglio, merci. Cherchez rien. Hein. Voilà, vous maîtrisez votre sujet, vous avez un sourire extraordinaire.
C'est gentil.
Quand vous souriez, il y a tout qui sourit chez vous, c'est très bien. Sur Urbaine, allez déverser, au sens image du terme, vos actions auprès des élus locaux qui en ont bien besoin. Sur Urbaine, c'est à consulter en bas du podcast. Bien évidemment. Merci Céline Stégère. J'ai réussi.
Bravo.
Céline Stégère. Merci, c'est un vrai plaisir de vous avoir. Je suis très fier finalement que vous soyez là parce que vous voyez, l'illustration, ça doit être jubilatoire pour vous de voir les entreprises que vous avez portées, que vous avez aidées, puisque c'est votre boulot de le faire. Et vous le faites vraiment bien, avec beaucoup d'espoir. Et de l'espoir, c'est bien ça dont il faut aujourd'hui, dans une époque un peu trouble, toutes et tous. On va se retrouver bientôt. Podcast, bien sûr, comme d'habitude, sur les plateformes d'écoute. D'ici là, eh bien, écoutez, prenez soin de vous.
Le Salon AMIF, le salon de l'Association des maires d'Île-de-France, les 28 et 29 mai 2024 à Paris Expo, Porte de Versailles, sur Radio Imo et Radio Territoria.